Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Relations, la conversation et protégez-vous. Au programme, Western extractiviste et Klondike franco-anishinabé, votre chien peut comprendre ce que vous dites jusqu'à un certain point et plus de services offerts en pharmacie. Bonne écoute.
Western extractiviste et Klondike franco-anishinabé. Un texte de Jean-Loup David, paru dans le numéro 819, hiver 2022-2023, de la revue Relations. L'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue, pour peu qu'on interroge le mythe complaisant du pays au ventre en or, apparaît comme le récit modèle de la prédation territoriale, l'exemple par excellence de la captation immodérée de la ressource en régime minier. Cet aspect de notre passé récent fut d'une rare violence à l'endroit des Anishinabeks, premiers habitants de ce territoire. La confiscation de leurs terres avec la complicité de notre gouvernement national reste méconnue. Ses conséquences, loin d'appartenir à la seule histoire, se font sentir jusqu'à aujourd'hui sur la vie des communautés régionales. L'œuvre sainte de la colonisation. Les droits autochtones sur l'arrière-pays indien sont affirmés par la couronne britannique à la chute du régime français dans la proclamation royale de 1763. Le roi d'Angleterre et son conseil s'engagent alors à prendre les mesures pour assurer aux nations qui sont en relation avec la couronne la possession entière des territoires qui ont été réservés pour ces tribus. Le wampum ayant scellé l'accord, cet instrument de la diplomatie autochtone conservé par la communauté de Kitigan-Zibi en Outaouais garde d'ailleurs la mémoire de cette entente chez les Anishinabeks. Ces droits, pourtant, ne seront jamais respectés par Québec, qui estime que les titres indiens sur le sol s'éteignent à la conquête au moment où les Canadiens français perdent eux aussi la mainmise sur le pays. Dès le 19e siècle, commence l'exploitation de la richesse forestière du Témiscamingue, cela sans le consentement des Autochtones. Les Nipissing et d'autres groupes algonquins, qui mènent une vie nomade sur des tributaires de la rivière des Outaouais, sonnent l'alarme en 1835 par l'intermédiaire du surintendant du ministère des Affaires indiennes. Ils affirment que leurs terrains de chasse sont entièrement ruinés par les colons blancs, mais surtout par les bûcherons. En 1885, plus de 40 chantiers sortent déjà 7 millions de billots de pain blanc annuellement du Témiscamingue. La ressource est dravée jusqu'au moulin, ce qui entrave la circulation des nomades sur la rivière. L'œuvre sainte de colonisation, comme on dit alors, va bon train, si bien qu'on songe très tôt à installer les Autochtones dans des espaces réduits pour s'arroger le reste du territoire. En 1851, le gouvernement provincial promulgue à cet effet un texte de loi qui mène à la création des premières réserves. C'est dire que la province alloue à ce moment des parcelles de territoire qu'elle ne possède pourtant pas de plein droit à des gens qui y vivent depuis toujours. Seulement 230 000 arpents de terre sont concédés au total pour créer 6 réserves, soit moins de 1% du territoire national. Certaines de ces terres, réservées pour les Autochtones au lac Témiscamingue, sont par ailleurs déjà administrées en vertu d'un permis de coupe ou occupées par des colons. En 1884, la Société de colonisation du lac Témiscamingue est fondée. Les Euro-Canadiens commencent alors à affluer en plus grand nombre. En 1886, environ la moitié des 400 personnes vivant en sédentaire sur le bord du lac Témiscamingue sont autochtones. Moins de 20 ans plus tard, elles ne forment plus que 5% de la population. En 1913, le train traverse la forêt boréale du Moyen-Nord de Sainte-Terre jusqu'à la Reine. C'est au tour de l'Abitibi de s'ouvrir à la colonisation. En 1922, le gouvernement du Québec sanctionne la loi concernant les terres réservées aux sauvages qui mène à la création de nouvelles réserves. Celles-ci devront être rétrocédées au gouvernement lorsque les Autochtones en cesseront l'usage, une éventualité sur laquelle le gouvernement provincial semble fonder certains espoirs. Ces réserves ne leur allouent toutefois aucun droit sur le sous-sol minier et ne peuvent être érigées sur des territoires qui sont déjà, comme le dit la loi, sous licence de coupe de bois. Ceux-ci forment alors près de la moitié du territoire témiscabitibien. Ruée minière. Mais c'est au tournant du 20e siècle que l'extraction minière devient centrale dans l'économie locale. En 1906, le prospecteur Renaud, en butte aux tracasseries des Autochtones qui tentent de le chasser, et probablement suivant des indications obtenues d'eux, exhume à Arntfield le premier gisement aurifère d'Abitibi. Ignace Tonené, chef de la bande de Témagami, découvre le corps du minerai qui mènera à l'exploitation minière de Kirkland Lake, mais sa concession lui est usurpée et il ne touchera jamais l'argent qu'il pouvait en espérer. Les frères Makimout, des Anishinaabeg de Winneway, repèrent pour leur part en 1909 une roche brillante sur les berges du lac Osisko, à Konya, Assini, qui deviendra Rouyn-Noranda. Mais c'est le prospecteur Edmund Horne, à l'oreille de qui parvient la rumeur, qui se lancera à l'assaut de cette richesse quelques années plus tard. La Noranda sera bientôt la deuxième plus grande mine de cuivre au monde. Un territoire usurpé. L'histoire territoriale des communautés Anishinaabeg de l'Abitibi-Témiscamingue vaut aussi d'être rappelée, en commençant par celle des Témiscaming, à qui l'on avait alloué un vaste territoire à la tête du lac et qui ont vu affluer très tôt chez eux des colons de plus en plus nombreux. Ils seront, au cours des 100 années suivantes, lentement dépossédés au moyen de rétrocessions toutes plus frauduleuses les unes que les autres. En 1938, par exemple, le député du comté, le curé Moreau de Nédélec et le maire envahissent la réserve avec une troupe de colons, hache en main, pour prendre possession de la portion nord de la réserve qu'ils entendent occuper jusqu'à ce qu'on la leur cède. Ils sont rappelés à l'ordre par le gouvernement fédéral, mais l'année suivante, ils obtiennent, à force d'intimidation et de pots de vin, la cession de la moitié du territoire restant. Des 150 km² qu'ils couvraient à l'origine, le territoire des Témiscaming occupe aujourd'hui moins de 22 km². Quant aux autres bandes, celle des Winneway Yininik de Long Point à Winneway possède un territoire aussi petit que 0,48 km², sur lequel ses membres ont longtemps vécu en squatter, c'est-à-dire sans posséder de titre foncier sur le territoire. La bande de Winneway fut déplacée à la suite de la construction d'un barrage hydroélectrique pour alimenter la mine de Belle Terre, ce qui devait inonder leur territoire de trappes traditionnelles. La communauté vit ainsi à l'étroit dans le village de La Force, qui totalise pourtant 434 km². La bande de Kebaouwek à Eagle Village est issue du rassemblement de plusieurs familles décimées par la grippe espagnole. Sa réserve est située sur un lot de bois appartenant à la Gordon Creek Company, qui lui a longtemps exigé un loyer. Elle aussi vit à l'étroit dans une densité excédant 1000 habitants par km². La bande de Wolf Lake, pour sa part, n'a toujours pas de territoire. Elle se compose de plusieurs familles des environs du lac Kipawa, à qui l'on avait promis une réserve si elles acceptaient de se rassembler en bande. Mais le territoire visé ne leur a finalement jamais été alloué. La bande des Abitibiwinik, quant à elle, vivait autour du lac Abitibi, des deux côtés de la frontière entre l'Ontario et le Québec, dont le tracé est venu séparer la communauté en deux. Lors de la cession de leur territoire à l'Ontario, en 1906, traité numéro 9, les Abitibiwinik ont obtenu une réserve à Wagoshig. Toutefois, le gouvernement du Québec ayant refusé de dépêcher un émissaire pour négocier avec la bande, le groupe qui chassait du côté québécois a dû se résigner près de 50 ans plus tard à s'acheter, avec de l'argent donné par l'Ontario, deux terres agricoles au nord d'Amos, des terres qui forment aujourd'hui la communauté de Pickogan. Les membres de la bande de Kitsisakik, enfin, vivent aussi en squatter sur les berges du Grand Lac Victoria, où ils n'ont pas accès au réseau d'électricité public. Bien que situés à côté du barrage Bourque, dont la rétention d'eau génère des inondations récurrentes, ils ne touchent aucune redevance sur l'exploitation hydroélectrique de l'installation. Ils sont depuis longtemps en négociation pour obtenir une reconnaissance territoriale. L'Abitibi-Témiscamingue est donc un territoire usurpé, obtenu par l'exercice d'une violence étatique et industrielle ininterrompue, vieille de plus d'un siècle. C'est une chose très douloureuse à admettre, mais ce n'en est pas moins vrai. L'industrie minière qui y fait la pluie, acide, et le beau temps, faisait encore récemment apparaître une mine en plein centre de Malartic, dont la population a été expropriée afin qu'on puisse y creuser le plus gros pit à ciel ouvert du pays. Et le projet d'extraction de lithium Tansim de la compagnie Sayona à Québec, à un jet de pierre de Winnoway, promet de saccager à son tour le territoire traditionnel de la communauté. Région ressources, l'Abitibi-Témiscamingue est surtout le buffet à ciel ouvert du grand capital minier mondial. Rien, Dieu soit loué, ne doit jamais changer au pays des pick-up, et on peut être certain que le secteur minier a encore de beaux jours devant lui. Pour ce qui est des droits territoriaux des peuples autochtones, par contre, inutile de dire que ça attendra. C'était Western Extractivist et Klondike, Franco-Anishinaabe, un texte de Jean-Loup David, paru dans le numéro 819, hiver 2022-2023, de la revue Relations.
Votre chien peut comprendre ce que vous dites jusqu'à un certain point. Un texte de Sophie Jacques paru le 28 janvier 2022 dans le magazine La Conversation. Les êtres humains sont uniques pour ce qui est de leur habileté à développer des compétences linguistiques élaborées. Le langage nous permet de communiquer entre nous et de vivre dans des sociétés complexes. Il est la clé de nos capacités cognitives avancées et de nos prouesses technologiques. En tant que psychologue du développement, j'ai beaucoup étudié le rôle du langage dans le développement cognitif des enfants, en particulier de leurs fonctions exécutives, les compétences cognitives qui leur permettent de contrôler leur comportement, de planifier leur avenir, de résoudre des problèmes difficiles et de résister à la tentation. Fonctions exécutives. Le développement des fonctions exécutives se fait lentement au cours de l'enfance. À mesure qu'ils grandissent, les enfants parviennent mieux à organiser leurs pensées et à maîtriser leurs comportements et leurs émotions. En fait, l'être humain est la seule espèce connue à acquérir des fonctions exécutives avancées, bien que d'autres espèces comme les oiseaux, les primates et les chiens aient des fonctions exécutives rudimentaires semblables à celles des jeunes enfants. La capacité des humains à développer des fonctions exécutives est associée au développement du langage. Le langage nous permet de former et de garder à l'esprit des représentations de nos objectifs et de nos plans, ce qui nous permet de régir notre conduite à long terme. Ce qui n'est pas clair, c'est si le langage engendre réellement l'acquisition des fonctions exécutives et si la relation entre le langage et les fonctions exécutives n'existe que chez les humains. Comportement canin. L'étude des chiens offre l'occasion idéale pour les humains de se pencher sur ces questions. D'abord, les chiens possèdent des fonctions exécutives rudimentaires. On peut les mesurer de diverses manières, notamment en interrogeant les propriétaires sur la capacité de leur chien à contrôler son comportement, ainsi que par des tests comportementaux qui permettent d'évaluer l'aptitude des chiens à se maîtriser. Ensuite, non seulement nous exposons régulièrement les chiens au langage humain, mais les recherches indiquent que les chiens peuvent percevoir différents mots et apprendre à y réagir. Par exemple, trois chiens, deux border collies nommés Chaser et Rico et un Yorkshire terrier nommé Bailey ont appris à répondre à plus de 1000, 200 et 100 mots, respectivement. Cependant, de nombreuses études sur le langage et les chiens sont de portée limitée, soit parce qu'elles étudient le comportement d'un seul chien ou d'un petit échantillon de chiens, soit parce qu'elles étudient les réactions de plusieurs chiens, mais seulement à certains mots. Une exception à la règle est une étude dans laquelle on a demandé à 37 propriétaires de chiens de rédiger la liste des mots auxquels, selon eux, leur chien répondait systématiquement. Les propriétaires ont indiqué que leur chien réagissait en moyenne à 29 mots, mais il s'agit probablement d'une sous-estimation. En effet, des recherches utilisant une approche de rappel libre similaire avec des parents montrent qu'ils sont enclins à oublier de nombreux mots lorsqu'ils doivent dresser une liste des mots auxquels leur bébé réagit de manière constante. Communiquer avec les chiens. La recherche sur les bébés humains offre une solution pour évaluer de manière systématique et fiable la réponse aux mots avec de grands échantillons de chiens. La mesure des capacités linguistiques précoces des bébés humains la plus efficace et la plus utilisée est sans doute l'outil des inventaires MacArthur Bates du développement de la communication, une liste de contrôle remplie par les parents des mots auxquels leur enfant réagit. Il est remarquable de constater que le nombre de mots sélectionnés dans les inventaires MacArthur Bates permet de prédire le développement du langage des enfants des années plus tard. En 2015, j'ai entrepris une collaboration avec la psychologue Catherine Reeve, qui était à l'époque étudiante au cycle supérieur et travaillait sur les capacités de détection olfactive des chiens. Notre objectif était de développer une mesure similaire du vocabulaire à l'usage des propriétaires de chiens, dont nous pourrions nous servir pour étudier les liens entre le langage et les fonctions exécutives. Nous avons élaboré une liste de 172 mots classés en catégories différentes, par exemple jouets, nourriture, ordre, lieux extérieurs, et l'avons donné à un échantillon de 165 propriétaires de chiens professionnels et de compagnie. Nous leur avons demandé de sélectionner les mots auxquels leurs chiens réagissaient systématiquement. Nous avons constaté que les chiens d'assistance répondent en moyenne à environ 120 mots, tandis que les animaux domestiques répondent à environ 80 mots, avec une fourchette allant de 15 à 215 mots pour tous les chiens. Nous avons également observé que certains groupes de races, tels que les chiens de berger comme les border collies ou les mini-chiens comme les chihuahuas, réagissaient à davantage de mots et de phrases que d'autres types de races comme les terriers, les retrievers et les races croisées. Ce que nous ignorons pour l'instant, c'est si les chiens qui réagissent à un grand nombre de mots ont de meilleures fonctions exécutives. Nous avons récemment évalué 100 chiens avec une mesure comportementale des fonctions exécutives et demandé à leurs propriétaires d'identifier des mots sur notre liste. Nous en sommes à analyser les résultats. J'ai commencé à m'intéresser à l'étude des chiens pour voir ce qu'ils pourraient nous apprendre sur le développement des enfants. Cette recherche pourrait également fournir des informations pratiques sur les chiens. Ainsi, il est très coûteux de former des chiots pour le travail d'assistance et beaucoup d'entre eux ne sont pas retenus. Cependant, si les capacités précoces de réaction aux mots permettent de prévoir les capacités comportementales et cognitives ultérieures, notre mesure pourrait constituer un outil simple et rapide pour prédire quels chiens sont susceptibles de devenir de bons animaux de service. C'était « Votre chien peut comprendre ce que vous dites jusqu'à un certain point ». Un texte de Sophie Jacques paru le 28 janvier 2022 dans le magazine La Conversation.
Plus de services offerts en pharmacie. Un texte de Laura Landry, paru en janvier 2023, dans le magazine Protégez-vous. Depuis le 25 janvier 2021, les pharmaciens disposent de plus d'autonomie dans la prestation de soins permettant d'accélérer l'accès aux traitements pour des problèmes de santé mineure. Tour d'horizon des services qu'ils peuvent vous rendre. Au-delà de 600 partenariats d'entente ont été établis entre pharmaciens et médecins pour renforcer la collaboration interprofessionnelle et faciliter l'évaluation de la condition d'un patient. Ces nouveaux services découlent du projet de loi 31 qui permet d'utiliser tout le potentiel des pharmaciens. Nouvelles activités professionnelles des pharmaciens. Prolonger une ordonnance. Prescrire des tests. Amorcer une thérapie médicamenteuse de manière autonome. Prescrire et ou administrer un vaccin. Modifier une thérapie médicamenteuse de manière autonome. Amorcer ou modifier une thérapie médicamenteuse dans le contexte de pratiques collaboratives. Substituer un médicament. Administrer un médicament. Faire des prélèvements dans le pharynx. Des conditions de santé mineures. Le pharmacien peut maintenant prendre en charge davantage de conditions de santé mineures déjà diagnostiquées ou qui ne nécessitent pas de diagnostic, comme la diarrhée du voyageur, la dermatite de contact et la contraception hormonale. Le pharmacien peut aussi amorcer une thérapie de façon autonome en prévention de problèmes de santé, par exemple dans le cas d'une personne qui veut arrêter de fumer. Certaines conditions peuvent même être traitées plus rapidement dans des situations où le temps est crucial. Ainsi, les patients exposés à la maladie de Lyme, à une exposition accidentelle au VIH ou à une maladie du voyageur comme le paludisme, peuvent en parler au pharmacien. Dans tous les cas, ce dernier note la condition du patient au dossier et un médecin peut consulter ces informations pour faire un suivi si nécessaire. Zona et influenza. Les pharmaciens peuvent, depuis janvier 2021, amorcer de façon autonome le traitement de ces infections virales. Dans les deux cas, il doit recommander le patient à un médecin dans les 48 heures pour l'influenza et dans les 72 heures pour le zona. Pour ces infections, c'est très bien de pouvoir commencer rapidement un traitement. Dans le cas du zona, plus on agit rapidement, mieux le patient s'en sort, explique le docteur Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. La vaccination. Depuis mars 2020, en réponse à la pandémie, les pharmaciens sont autorisés à pratiquer la vaccination et ce service sera maintenu. Ils peuvent administrer de nombreux vaccins couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, ainsi que plusieurs autres non couverts, comme les vaccins pour les voyageurs. Il est possible de vérifier quels vaccins sont couverts sur le site Internet de la RAMQ. Quand aller voir le pharmacien au lieu du médecin? Si vous pensez que votre condition peut être traitée avec un médicament, commencez par la pharmacie. Le pharmacien est en mesure de faire une évaluation de votre condition physique ou mentale. Il saura s'il peut vous offrir un traitement ou s'il doit vous diriger vers un autre professionnel de la santé. Si vous avez des questions sur la combinaison entre des produits naturels en vente libre et vos médicaments prescrits, ou si vous avez des effets secondaires après le début d'un traitement, consultez votre pharmacien. Si vous hésitez, un appel au 811 peut aussi vous aider à choisir quel spécialiste consulter en premier. Planifiez une visite à la pharmacie. Il devient de moins en moins courant de pouvoir déposer son ordonnance au comptoir et la recevoir dans les minutes qui suivent. Face à l'augmentation de leurs tâches, les pharmaciens doivent parfois demander aux patients de prendre un rendez-vous pour une consultation ou pour l'administration d'un médicament, mentionne le docteur Yann Gosselin-Gaudreau, pharmacien propriétaire. Abolition de la franchise et co-assurance, une bonne nouvelle. Depuis janvier 2021, les activités professionnelles telles que la prolongation d'ordonnance, l'évaluation du besoin de prescription pour une condition mineure ou la substitution d'un médicament, notamment, ne sont plus sujettes à une contribution des patients. C'est un changement très positif. Ça rend l'accès rapide et facile pour les gens qui avaient des contraintes financières, commente le docteur Pierre-Marc Gervais, directeur principal, service pharmaceutique de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, AQPP. Plusieurs services offerts en pharmacie sont couverts sans frais par votre assureur, privé ou public, ou sur simple présentation de votre carte d'assurance maladie, indique la RAMQ. Administration d'un médicament afin d'en démontrer l'usage approprié, administration de certains médicaments en situation d'urgence, ajustement d'une ordonnance pour l'atteinte de cibles thérapeutiques, amorce d'une thérapie médicamenteuse, incluant la contraception orale d'urgence, demande de consultation d'un autre professionnel de la santé, modification d'une thérapie médicamenteuse, prescription de médicaments en vente libre, prise en charge après une hospitalisation, prise en charge de la clientèle en soins palliatifs, service d'évaluation afin de prolonger une ordonnance et sa prolongation, substitution thérapeutique d'un médicament, vaccination en pharmacie selon les conditions prévues au programme de vaccination. Les pharmaciens, formés pour tous ces nouveaux rôles? Les jeunes pharmaciens possèdent les connaissances et la formation nécessaires, puisqu'ils reçoivent cette formation durant leurs études. Dans le cas des pharmaciens moins jeunes, ils suivent des formations de mise à jour, ajoute le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Comprendre sa facture. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur la facture que vous recevez et mieux la comprendre, vous pouvez consulter le document que l'AQPP a produit sur la facture détaillée. Choisir votre pharmacien, rappelons-le, est votre droit. La loi vous protège. Si vous subissez des pressions pour choisir tel professionnel plutôt que tel autre, la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, vous invite à dénoncer la situation. C'était « Plus de services offerts en pharmacie », un texte de Laura Landry, paru en janvier 2023 dans le magazine « Protégez-vous ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Dominique Desrosiers et Jocelyne Langevin à la lecture, Jean-Sébastien Laliberté et André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.